Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous adorons toujours le Seigneur ensemble, en recherchant dans sa parole. L'un des éléments de l'adoration est de s'assurer que nous connaissions le Dieu que nous adorons, que nous l'entendions nous parler, et que nous nous tournions à nouveau vers sa parole ce matin. Et alors je pensais à la saison et au message que l'Esprit de Dieu mettrait dans nos cœurs. J'ai pensé que nous devrions peut-être ouvrir le Nouveau Testament pour admirer les actes d'un Jésus miraculeux, et ouvrir aussi l'Ancien pour observer le mystère qui entoure les prophètes lorsqu'ils parlaient de celui qui devait venir. Lorsque les prophètes ont écrit sur le Messie, ils ont écrit la parole de Dieu. Comme il est dit dans Luc 3:2 au sujet de Jean-Baptiste, la parole de Dieu fut adressée à Jean, comme il est dit de tant de prophètes d'autrefois. La parole du Seigneur est venue vers eux, et ils ont dit. Ils ont écrit la parole de Dieu, et une grande partie de la parole de Dieu concernait le Messie à venir, loin à venir, le Christ à venir, le Roi à venir et le Sauveur à venir. Et comme ils l'écrivaient, ils étaient quelque peu déconcertés par ce qu'ils avaient eux-mêmes écrit. Je me souviens des paroles de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, où il dit « Les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, pour essayer de comprendre quelle personne, quel temps ou quelle circonstance pourrait amener toutes ces prophéties à dépasser la souffrance et la gloire de celui qui devait venir, car ils avaient vraiment affaire avec un mystère. Ils géraient des contradictions apparentes, des déclarations d'une part sur sa gloire et d'autre part sur sa souffrance future, qui semblaient juste inconciliables, et ils ont été déconcertés par une grande partie de celle-ci. Et les gens à qui Jésus parlait étaient également déconcertés. Certains disaient qu'il était le Christ, d'autres ont dit que non, qu'il était un prophète, et d'autres ont dit « Mais un prophète peut-il sortir de Galilée ?» Et certains ont dit qu'il était Jérémie, et d'autres ont dit qu'il était Élie. D'autres encore ont dit qu'il était un énième prophète pré-messianique, mais qu'il ne pouvait pas être le Messie, parce que tout ne semblait pas correspondre. Et les disciples se sont demandés, avec leurs esprits confus, « Cela peut-il vraiment être le Messie? Où est le royaume? Où est la gloire? Où est le pouvoir ?» Et Jean-Baptiste entre tous, l'a trouvé très, très difficile à comprendre. Ouvrez avec moi, pour un moment, le chapitre 11 de Matthieu comme point de départ. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus-Christ. Il était celui qui, un beau jour, dirait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » et désigna Jésus-Christ et dit « C'est lui ». Et il dit « Suivez-le, pas moi, car il doit s'élever et je dois m'abaisser. Il est temps pour moi de disparaître. Il est arrivé. » Mais tout à coup, nous trouvons Jean-Baptiste en prison, au chapitre 11 de Matthieu, et le verset 2 dit que Jean a entendu depuis sa prison les œuvres de Christ. Il a envoyé deux de ses disciples pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et là, Jean, qui était si sûr au départ, est maintenant si incertain. « Es-tu l'élu ? Je pense que tu devrais le savoir, Jean. Tu étais son messager. Tu devrais le savoir. Tu l'as pointé du doigt en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tu devrais te rappeler que tu l'as baptisé, Jean, et qu'une voix dans le ciel a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Tu devrais le savoir, Jean, car le Saint-Esprit a envoyé une colombe sur sa tête. Tu devrais savoir qui il est. Mais Jean se débat parce qu'il est déconcerté. En fait, il a supposé quelque chose, et il l'a mentionné dans Matthieu 3. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il a prédit qu'il baptiserait de feu, qu'il viendrait avec le jugement, qu'il viendrait avec fureur, qu'il viendrait comme un feu consumant pour engloutir les impies et les incroyants dans les flammes, et pour ensuite établir un royaume pour les justes. Mais à présent, Jean n'arrive pas à comprendre ce qui n'a pas marché. Il se demande où est le feu, où est l'incendie, où est le courroux, où est le royaume. En effet, il aurait dû être exalté en tant que prisonnier à Mukwawir, un vieux fort du temps d'Hérode, un endroit morne et lugubre, à l'est de la mer Morte, dans une région dévastée. Et il est là, prisonnier, et Jésus se promène, modeste et doux, guérissant les malades, aimant les gens, et il se demande où est le tonnerre, où est la vengeance, où est la colère, et où est le royaume. Il ne trouve pas la réponse dans son esprit. Alors, il est déconcerté, et il envoie ses disciples pour demander « Es-tu vraiment le Messie ?» Vous voyez, sans la révélation complète du Nouveau Testament, il y aurait énormément de mystères à propos de l'identité de celui-ci, et la cause du mystère vient des déclarations très diverses et apparemment contradictoires qui ont été faites à son sujet. Et je suis d'accord qu'il y a des choses à propos de Jésus qui sont déconcertantes. Le monde d'aujourd'hui est encore un peu déconcerté par Jésus. Ceux qui ne comprennent pas et croient de tout leur cœur la vérité du Nouveau Testament sont laissés avec un mystère incroyable concernant Jésus-Christ. Et à la suite de cela, il y a des myriades de fables, de contes et de fantasmes qui se sont développés autour de lui. J'ai récemment lu un article dans The Canadian Motorist Magazine, pas l'un de vos trois meilleurs magazines. Je ne sais même pas où j'ai trouvé ça. Mais quoi qu'il en soit, il y avait un article intéressant là-dedans, et l'article parlait d'un nouveau livre, intitulé « Jésus est mort au Cachemire ». Or, si vous connaissez votre géographie, le Cachemire est un petit pays quelque part entre l'Inde et le Pakistan, et le livre propage le fait que Jésus serait mort au Cachemire. C'est écrit par un homme nommé Faber-Kaiser. Donc le livre commence en nous disant qu'il existe dans le monde aujourd'hui un homme qui est le fils de Jésus-Christ. Il est le seul descendant vivant et traçable de Jésus-Christ, et il est vivant aujourd'hui. Il s'appelle Sahib Zada Bachara Salem, et il est le descendant vivant de Jésus-Christ. En fait, l'homme qui écrit le livre en est sûr, mais Sahib Zada n'en est pas encore convaincu. Mais si c'est en fait vrai, il est très enthousiaste. Il n'est pas sûr de ce quoi cela lui donne droit, mais il est sûr que cela doit lui donner droit à quelque chose d'être le fils de Jésus-Christ. Alors l'origine de ça est, quand je me suis plongé dans l'article, j'ai été interpellé par ça, pour le dire plus simplement. Mais le livre suggère que Jésus a visité le Cachemire entre 12 ans et 29 ans, un moment opportun, parce que c'était la période de sa vie où le Nouveau Testament reste silencieux. Ainsi, lorsque le Nouveau Testament se tait, c'est parce qu'il s'est rendu au Cachemire, et de 12 à 29 ans, il a étudié le bouddhisme et est devenu un lama ou un prêtre bouddhiste. Il note également dans le livre que cela ne peut pas être prouvé, parce que les Britanniques ont volé toutes les preuves afin de préserver le christianisme. Jésus aurait donc passé son temps, entre 12 et 29 ans, à devenir un lama bouddhiste. Il avait des opinions tellement diverses et uniques qu'ils l'ont chassé du Cachemire. Il est allé en Inde, ils l'ont chassé d'Inde. Il est allé en Iran, et ils l'ont chassé d'Iran. Et il a simplement continué vers l'ouest jusqu'à ce qu'il arrive en Israël. À l'âge de 29 ans, il aura atterri en Palestine et il y aurait exercé son ministère. Il n'est jamais mort sur une croix. Il n'est jamais ressuscité des morts. Ce sont des fables qui n'ont aucune preuve historique, dit le livre. Il a été crucifié parce qu'il y avait des blessures dans ses mains qui ont guéri, disent-ils. Il a été enlevé de la croix, a pris Marie, sa mère, et Thomas, et tous les trois sont allés en Inde. Or, la raison pour laquelle ils sont allés en Inde, dit le livre, c'est qu'ils cherchaient les tribus perdues d'Israël, qui étaient manifestement en Inde. Quand ils sont arrivés au Pakistan, ils sont restés là, et Marie est morte au Pakistan et a été enterrée. Marie serait enterrée, croit-il, à 48 kilomètres de Rawalpindi. Et au cas où vous pensez que c'est vraiment étrange, laissez-moi le rendre encore plus étrange. Il y a, à Rawalpindi, un tombeau considéré comme le tombeau de Marie, la mère de Jésus, et vénéré comme tel par les gens du pays. Thomas est allé dans le sud de l'Inde et est mort. Personne ne sait où et personne ne s'en soucie vraiment. Mais Jésus s'est retrouvé seul. Il s'est marié, a engendré des enfants et a vécu jusqu'à 86 ans et a été enterré à la crypte de Rosabal, à Srinagar, au Cachemire. Et à ce jour, les gens croient toujours que c'est sa crypte. Il a voyagé en Afghanistan et ailleurs, et lui ont donné un nom. Ils s'appelaient Shazada, Nabi, Azra, Yuza, Asaph. Et Yuza est l'équivalent de Jésus. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Coran parle de lui. Et le Coran dit « nous ». C'est Dieu qui parle au pluriel. Nous n'avons pas permis à Christ de mourir sur la croix, dit le Coran. Au lieu de cela, nous l'avons soulevé et emmené dans un endroit plein de beauté naturelle, de jardins, de lacs, de rivières, de fleurs et de fruits. Et en passant, des centaines de livres ont été écrits pour embellir cette fabuleuse fable. Il existe probablement une centaine d'autres fantasmes à propos de Jésus. Il est quasi certain que c'est un individu mystérieux. Mais il n'est pas seulement mystérieux pour le monde extérieur des incroyants, et une supercherie incroyable comme celle-ci est révélatrice du mystère de Jésus, autant que de l'incrédulité de leur cœur de pierre. Mais il y a un certain mystère à propos de Jésus, même dans l'Ancien Testament, et c'est ce qui le rend si intéressant. Il y a des choses qui semblent très difficiles à résoudre. Oui, en fait, impossible à résoudre. Si vous deviez regarder seulement l'Ancien Testament, et n'avoir aucune information sur lui dans le Nouveau, si vous ne connaissiez pas Jésus-Christ, ni quoi que ce soit à son sujet, vous regarderiez certains passages de l'Ancien Testament sur le Messie, et vous diriez que personne ne pourrait accomplir ça. Ces hommes ont tort. Il y a une incohérence totale et absolue dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucun moyen que toutes ces choses puissent arriver à un seul homme. C'est juste trop tiré par les cheveux. Eh bien, regardons certaines de ces prophéties. Et allons à la rencontre du mystérieux Jésus de l'Ancien Testament, pour vous donner une idée de ce que je veux vous montrer, alors que nous suivrons ses pensées. La raison pour laquelle il y a un mystère attaché à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'il existe un conflit apparent en ce qui concerne les prophéties. Par exemple, un passage le cite comme étant le roi à venir. Un autre passage le définit comme un homme de douleur, familiarisé avec le chagrin. Dans un autre, il est vu, faisant partie de tous les saints. Un autre passage encore le présente comme solitaire. Dans un autre passage, il est représenté comme vénéré, adoré, honoré et révéré. Et dans le passage suivant, il est seul et rejeté. D'une part, il est le roi de la gloire, le roi des cieux, le sauveur éternel, le désir de toutes les nations, la merveille des merveilles et la beauté parmi les beautés. Dans un autre passage, il n'a aucune beauté, et il est serviteur. Il est couvert de sang, il est crucifié, il est même mort. Comment cela se peut-il? Comment toutes ces choses confuses et contradictoires pourraient-elles jamais se réaliser? Pas étonnant que Jean ait été confus. Pas étonnant que les disciples aient été déconcertés. Pas étonnant que les gens ne puissent pas se décider concernant qui était cet homme. Mystère. Mais vous et moi avons un privilège. Dans le chapitre 13 de Matthieu, il y a quelques mois, je vous ai parlé de cette parole du verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Or, revenons au verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Écoutez, les amis, nous sommes capables de voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Nous sommes capables de comprendre ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Nous sommes capables de voir et de résoudre ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, être même résolus. Ces mystères existent. Voyons voir si nous ne pouvons pas obtenir de l'aide. Revenons au chapitre 7 d'Ésaïe, et je vais sélectionner une poignée de mystères et vous montrer comment ils sont résolus en Jésus-Christ. Dans Ésaïe 7, 14, nous lisons ceci, et le Nouveau Testament nous dit qu'il est allé au-delà de ce que Ahaz, l'homme qui a écrit à l'époque, l'a prédit. Ça a été transmis à tout enfant né dans sa famille, et cela s'est propagé à travers l'histoire, ne pouvant trouver de signification possible que dans le Messie. Il est dit au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Or ceci est une déclaration merveilleuse par toute son application dans le Nouveau Testament. Le Seigneur lui-même, de sa propre volonté, non sollicité, non réclamé, et de manière spontanée, le Seigneur lui-même nous a donné un signe, et ce signe indique quelque chose. Et le signe dans ce cas, par rapport à Ahaz, pointé vers quelque chose qui le dépassait. La Vierge concevra et enfantera un fils, Alma, égale Vierge, Il me semble que tous les autres versets de l'Ancien Testament qui se réfèrent à la Vierge, y compris la Septante qui le mentionne, et l'utilisation de ce passage dans le Nouveau Testament soulignent de manière certaine la nature vierge de cette jeune femme. Une vierge conçoit et porte un fils. Ce n'est pas inhabituel pour une fille d'avoir un bébé. Ce n'est pas inhabituel pour un enfant humain de naître. Mais c'est très inhabituel qu'ils doivent être appelés Dieu avec nous. Et encore plus inhabituel qu'ils soient Dieu venu parmi nous. Alors que cet enfant a peut-être été appelé Dieu avec nous, il y aurait un autre enfant né d'une vierge qui lui serait Dieu parmi nous. Un enfant humain et portant une réalité divine. Vous avez alors sous les yeux le mystère d'un être à la fois Dieu et homme. Comment quelqu'un peut-il être Dieu et homme? Comment peut-il y avoir un enfant qui soit à la fois l'enfant d'un être humain et qui soit en même temps Dieu parmi nous? Regardez dans Ésaïe 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pas si inhabituel, pas si étrange. Ceci aussi est une prophétie messianique, dont la partie antérieure est même citée par Jésus lui-même, disant qu'il est venu pour l'accomplir. Pas si inhabituel qu'un enfant naisse. Pas si inhabituel qu'un fils soit donné. Cela arrive tout le temps. Mais l'autorité sur ses épaules est peut-être. Peut-être doit-il être souverain ou merveilleux conseiller. Peut-être est-il un merveilleux conseiller. Le Dieu puissant, le Père éternel. Mystère. Comment peut-on avoir un enfant avec Dieu? Comment peut-on avoir un enfant qui soit le Dieu puissant, le Père éternel? Comment quelqu'un qui a toujours tout engendré peut-il naître à un moment donné? Le paradoxe est clair. Le mystère est évident. Un enfant né humain et qui pourtant est Dieu. Un fils donné à un moment précis qui est le Père éternel lui-même. Comment se peut-il qu'une femme puisse engendrer un enfant qui a lui-même engendré cette femme? Pas étonnant qu'il soit confus. Pas étonnant qu'il y ait du mystère. Heureux êtes-vous, parce que vous pouvez entendre ce qu'il ne pouvait pas entendre, et voir ce qu'il ne pouvait pas voir. Regardez dans Luc 1. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Verset 26. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, pas si inhabituel qu'une femme ait un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. » Pas si inhabituel. Il y avait eu d'autres gens formidables, et se rappelait le Fils du Très-Haut. Maintenant voilà ce qui est inhabituel. Qui est le plus grand? Dieu, le Fils de Dieu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Oui, il sera grand. Il sera pour toujours un roi éternel, et le Fils du Très-Haut, qui est Dieu. Et son royaume n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Je suis vierge. Comment puis-je avoir un enfant? » L'ange répondit et lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Comment un enfant peut-il être à la fois homme et Dieu? Comment cela se peut-il? » Le mystère est résolu dans l'Ancien Testament, est résolu ici même. D'une part, l'enfant est un homme, né de Marie. D'autre part, l'enfant est Dieu, né de Dieu, car Marie ne connaissait pas d'homme. Il n'y avait pas de Père terrestre. Dieu était le Père céleste. Dieu a placé sa divinité dans la chair humaine fournie par les reins de Marie. Le mystère est résolu. Il était pleinement Dieu, pleinement homme. Jésus, Dieu fait chair, pensez-y. L'Ancien Testament a dit qu'il serait la graine de la femme. Daniel 7:13 a dit qu'il serait le Fils de l'homme, alors que le psaume 2:7 a dit qu'il serait le Fils de Dieu, et Genèse 22:18 a dit qu'il serait la postérité d'Abraham. Comment peut-il être la graine d'une femme? Une femme n'a pas de graine. Or, peut-il être le Fils de l'homme et le Fils de Dieu? Comment peut-il descendre d'Abraham, descendre de David et descendre de Dieu? Quelle prophétie complexe! Comment Dieu peut-il être homme, et l'homme être Dieu, et en même temps être le Fils de l'homme et le Fils de Dieu? Comment peut-on être le Fils de l'homme, et pourtant n'avoir aucun père humain? Et comment peut-on être la graine d'une femme, quand la femme n'a pas de graine? Pas étonnant que les prophètes aient été déconcertés. Pourtant, Jésus était tout cela. Il était Dieu, il était homme, il était la graine de la femme, il était le Fils de l'homme, il était de la lignée d'Abraham, il était de la lignée de David, et pourtant il était le Fils de Dieu. Hébreux 1 dit, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, l'image expresse de sa personne. De qui est ce Fils? Le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Cela résout ainsi le mystère. Laissez-moi vous parler d'un autre mystère. » Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. C'est intéressant. C'est une autre prophétie messianique. Le spectre, qui représente le droit dominant, l'autorité dirigeante, le droit d'être le roi, ne s'éloignera point de Juda. En d'autres termes, de tous les fils de Jacob, de toutes les tribus, la ligne messianique serait passée par Juda. Le spectre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. C'est une déclaration très expressive concernant la progéniture ou la descendance qui sortent d'entre les pieds d'une femme, de sorte que les enfants nés de la lignée de Juda seraient ceux qui maintiennent la règle, l'autorité et qui auraient le pouvoir de dicter la loi. Le gouvernement résidera en Juda jusqu'à ce qu'ils disent « Silo vient ». Silo signifie « celui à qui il appartient » ou « celui dont c'est le droit ». Et ça, c'est une indication messianique, jusqu'à ce que le Messie vienne. Alors le rassemblement du peuple sera pour lui dans le royaume de gloire. Jusque-là, le spectre ne se séparera jamais de Juda. En d'autres termes, Juda maintiendra la lignée royale. Juda sera l'ascendant royal. Il s'agit de l'une des 12 tribus pour laquelle le Messie viendra, Juda. Mais vous savez que n'importe quel juif qui dirait ceci serait aussi immédiatement amené à se rappeler ce qui était énoncé dans le 38e chapitre du même livre, la Genèse. Revenez en arrière, Genèse 38. Ici nous trouvons un incident qui implique Juda. Juda, celui qui produira la graine messianique. Le verset 24 est celui qui nous intéresse dans le chapitre 38 de la Genèse. Environ 3 mois après, et nous verrons après quoi dans un instant. On vint dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. » Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Ce sont là les nouvelles apportées à un beau-père, à propos de la femme d'un de ses fils. Votre belle-fille a joué la prostituée. Elle s'est prostituée. Elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Et Juda s'est indigné. Et Juda a dit au verset 24, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Selon Deutéronome 22, verset 20-24, quelque part par là. Quand quelqu'un a commis l'adultère, il doit être lapidé. Pourquoi la combustion? Si vous regardez le chapitre 20 du Lévitique vers le verset 14 et le chapitre 21, verset 9, vous verrez qu'il y a une indication que lorsque l'adultère est excessif et que les crimes sont excessifs, il doit y avoir brûlure. Et ainsi, opte pour la loi la plus extrême et ordonne de la brûler pour prostitution. Verset 25. Comme on l'a menée alors, elle fit dire à son beau-père, celui qui l'avait condamné. C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Et elle ajoute, reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Vous voyez, le gars avait laissé quelques effets personnels derrière lui, et elle les envoie à Juda. Le verset 26 se dit, Juda les reconnut. Vous savez à qui ils étaient. C'étaient les siens. Ils étaient à Juda. C'est lui qui avait fait ça. Il avait commis l'adultère avec la femme de son fils, et l'avait mise enceinte. Et il dit au verset 26, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. Et parce qu'il était vraiment important de savoir qui était né le premier à l'époque, parce qu'il héritait du droit d'aînesse, ils ont attaché une petite corde rouge autour de sa main, pour s'assurer que lorsque les 2 seraient nés, ils ne les mélangent pas. Mais vous savez ce qui est arrivé? Il dit qu'il a sorti sa main et l'a retirée, et l'autre est sorti en premier. L'un était Pharez, et l'autre était Zara, 2 fils nés de Juda, à Tamar. Maintenant, vous voulez que je vous dise, si Genèse 49 était vrai, alors le Messie doit être un enfant bâtard, parce que de cette lignée de Tamar procède la lignée royale de Juda. Le Messie serait-il alors le descendant d'un enfant légitime issu de l'adultère? Vous pouvez comprendre juste en lisant la Genèse que certaines personnes seraient déconcertées de savoir que celui qui vient, qui devait être roi, soit issu d'une lignée illégitime. On trouve de l'aide pour ce problème dans Deutéronome 23, verset 2, et vous obtenez là des règlements donnés concernant le comportement et la vie quotidienne, les lois de Dieu. Et parmi elles, vous lisez ceci, Deutéronome 23, 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. C'est vrai, il n'y a pas de place pour lui. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Combien de générations a-t-il fallu pour purifier cela? Il en a fallu 10, n'est-ce pas? 10 générations, et la ligne était pure. Donc Juda a commencé une lignée royale, mais il n'y avait pas une personne dans cette lignée qui a pu régner, jusqu'à ce que cette lignée soit devenue pure. Regardez avec moi un instant dans Matthieu, chapitre 1, verset 3. Il commence avec Abraham, Isaac, Jacob et Juda, listant la généalogie du Christ. Au verset 3, Juda engendra Phares et Zara de Tamar. Ils sont là, ces deux enfants illégitimes. Et ensuite, la lignée se poursuit à travers Phares. Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadad. Abinadad engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rachab. Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra qui? David. Vous avez compté combien sont nés depuis Tamar? 10. Et ainsi la lignée est devenue pure, et David a droit au trône royal. La lignée est devenue pure en David, nous dit la Bible, pour toujours et à jamais. Jésus est un roi issu, non pas de la lignée de Juda, mais de la lignée de qui? De David. Retour au verset 1. Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, le fils de David. Car c'est à partir de lui que le droit de régner est revenu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Que Dieu résolve le mystère dans la Genèse. Laissez-moi vous montrer autre chose. Dans Michée, chapitre 5, revenez environ une demi-douzaine de livres avant la fin de l'Ancien Testament, et vous trouverez Michée. Michée nous dit où le Messie devait naître. C'est merveilleux. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, bien que tu sois insignifiante, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Le maître naîtra de toi. Quel maître? Oh, c'est merveilleux! Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est vraiment incroyable. Vous avez à nouveau ici le paradoxe Dieu, homme. Michée a dû s'arracher les cheveux en entendant cela. Comment est-ce possible d'avoir un enfant né à Bethléem qui a vécu depuis l'éternité? Mais l'Éternel est né dans ce village obscur et sans importance de Bethléem, dont j'ose dire qu'il n'aurait pas été sur la carte si ce n'était grâce à ce grand événement. Vous me direz, eh bien, c'est simple. Nous savons tous que cela est arrivé, c'est vrai. Mais ce qui est si mystérieux à ce sujet, c'est, prenez Osée, chapitre 11, la façon dont Israël est présenté ici. Et au cœur de la nation viendrait le Messie. Et tout comme Israël était vraiment fille de Dieu, Jésus-Christ en était réellement le Fils. La comparaison est ainsi évidente. Osée 11.1 nous dit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Cela a de profondes implications messianiques, à savoir que, tout comme Israël a été appelé hors d'Égypte dans son enfance, le Messie a lui aussi été appelé. C'est ainsi que les auteurs du Nouveau Testament voient le passage. Nous ne savons pas tout ce qu'ils ont pu comprendre à ce moment-là, mais il est dit ici que le Fils sera appelé hors d'Égypte. Donc, dans une prophétie, il viendra de Bethléem, et dans une autre, c'est d'Égypte qu'il viendra. Et comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, regardez Isaïe, chapitre 11. Celui-ci nous dit quelque chose d'autre à propos de ça. Il nous dit, « Puis un rameau sortira, ou une pousse, du tronc d'Isaïe, une branche qui naîtra de ses racines. » Vous avez ici les expressions pousse, graine, branche, rameau. Et ceci est encore une prédiction messianique. Le verset 2 nous dit, « l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Puis il décrit le royaume et le millénium, et tout ce qu'il apportera. Il dit donc que, quand il viendra, il sera un rameau, une graine. La première signification de cette prophétie est le titre de branche donné au Messie, mais la seconde est celle qu'apparemment l'auteur du Nouveau Testament voit aussi. Nous pouvons supposer que d'autres l'ont vu, suggèrent que Jésus serait un rameau, et cela pourrait suggérer que sa résidence de Nazareth en soit la racine. Donc, d'une part, vous avez Bethléem, puis vous avez l'Égypte, et ensuite, vous avez une ville racine, Nazareth. Comment tout cela peut-il être possible? Vous pouvez comprendre que les prophètes d'autrefois, cherchant avec assiduité dans l'Écriture, se demandaient d'où il viendrait, de Bethléem, de Nazareth, d'Égypte, et la complexité de toutes ces prophéties rendait impossible le fait qu'elles soient contrefaites. Allez dans Matthieu chapitre 13. « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voilà pour la première prophétie. Verset 5. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Il y a bien sûr ici une allusion à la prophétie même de Michée. Bethléem est cité, et Bethléem est le bon endroit. Mais il y a plus. Regardez le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en rêve, et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Jésus est devenu un réfugié. Il s'est rendu en Égypte. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Il accomplit ainsi cette partie de la prophétie. Il est allé en Égypte. Puis nous avons la troisième prophétie, verset 23. « Il vint demeurer dans une ville, appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Il sera appelé un rameau, une racine, une branche, un Nazaréen. Quelqu'un de méprisé, de pas très spectaculaire. Pourquoi ne s'est-il pas installé en Juda? Pourquoi ne s'est-il pas installé à Jérusalem? Pourquoi Nazareth? Parce que c'est ce que les prophètes ont annoncé. Dans un accès de colère, peu de temps avant sa mort, le roi Hérode avait changé de testament, ce qu'il avait fait très souvent, et il avait ordonné à Archélaüs, qui était le pire de ses fils vivants, de régner en Judée, à Antipas, qui gérait la Galilée, et Pérée. C'était une bonne raison d'aller là-bas. Joseph avait peur de s'installer sur le territoire d'Archélaüs, parce qu'Archélaüs avait déjà tué 3000 juifs à Jérusalem. Il était cruel au-delà de l'imagination, et il fut finalement, soit dit en passant, détrôné et remplacé par les Romains eux-mêmes. Eh bien, si Hérode n'avait pas changé de testament, peut-être que Jésus ne serait jamais allé à Nazareth, mais il l'a fait. Jésus a accompli chaque prophétie. Comment une personne pourrait-elle venir de tous ces lieux? Il le peut. Laissez-moi vous donner une autre prophétie. Je pense que c'est très intéressant. Tournez-vous vers Jérémie, chapitre 22, et je veux que vous remarquiez une autre incohérence, un mystère difficile à comprendre en regardant l'Ancien Testament. Dans Jérémie 22, verset 29, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Dieu va parler, et il parle. Il parle à Jéconie, le roi Jéconie. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne sont pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. La lignée messianique de Juda ne réussira pas à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. La lignée messianique de Juda à David descend de David à Jéconie, parfois appelé Konia, et il était méchant, infidèle, et Dieu l'a maudit. et il a ordonné d'inscrire l'homme comme sans enfant. Cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais eu d'enfant. Nous savons qu'il a eu des enfants. Chronique 1, chapitre 3. Je pense que c'est par là. Nous en parle. Mais le verset continue en disant qu'aucun homme de sa postérité ne prospérera, ne siégera sur le trône de David et ne régnera en Juda. Et écoutez bien, je veux que vous sachiez que ce type fait partie de la lignée messianique. Alors voilà ce que dit le prophète. Je sais que le Messie vient de la lignée de Juda. Mais comment est-ce possible quand la lignée de Juda est corrompue à partir de Tamar? Comment cela peut-il être une lignée pure? Parce qu'elle a été purifiée à la 10e génération avec David et qu'elle est de retour sur la bonne voie. Oui, il sortira des reins de David et descendra de David pour arriver à Jéconie. Et tout à coup, Dieu dit une chose à propos de ce type. Aucune personne qui sortira de ses reins ne sera jamais un roi en Israël. Et vous vous dites que c'est la fin, que c'est fini. Le Messie devait être un roi. Il devait hériter du trône. Il devait suivre la lignée royale. Mais quand vous arrivez à Jéconie, c'est fini. Et vous voulez que je vous dise quelque chose d'intéressant? Il n'y a pas eu de roi depuis Jéconie. Il n'y en a pas eu. Il était le dernier. Il n'y a pas eu de roi en Israël après lui. Cette prophétie est arrivée. Il n'y en a pas eu. Il n'y aura jamais de roi sorti de ses reins. Jamais. Regardez Matthieu chapitre 1. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'absolument fascinant. Portez-vous sur le verset 6, quand nous arrivons à David, et ensuite Salomon, Roboam, Abia, Asa, Josaphat. Il énumère tous ces rois. Il continue jusqu'au verset 11. Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. C'était la fin de la monarchie. Il était le dernier roi, et aucun roi n'est sorti de ses reins à cause de ses méfaits. Alors tous les hommes qui l'ont suivi, Zalatiel, Zorobabel, Abioud, Eliakim, Azor, Sadoc, tous ceux-là, n'ont jamais régné sur le trône. Ils en avaient le droit, mais ils n'ont jamais régné parce que la malédiction était là. Et vous arrivez au verset 16, et Jacob engendra Joseph. Vous voulez savoir quelque chose à propos de Joseph? S'il n'y avait pas eu la malédiction de Jéconie, et si la Palestine n'avait pas été occupée par les Romains, devinez qui aurait été le roi d'Israël. Qui aurait-il été? Joseph. Il aurait été le roi. Mais il ne pouvait pas être roi. Il ne pouvait pas être roi dans le sens où il était maudit. Vous pouvez voir le paradoxe, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas de roi, mais le droit de gouverner demeurait, lui. Le droit légal de régner était là. C'était juste que si vous sortiez des reins de Jéconie, vous ne pouviez pas prendre votre spectre. Comment donc allons-nous obtenir un roi? Je vais vous dire comment. Luc chapitre 3. Et voyez comment le Nouveau Testament résout ce mystère. La lignée royale est venue de David à travers son fils Salomon, pas vrai? Nous venons de le voir. Regardez cette phrase. Luc 3, 31. Fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, Luc 3, 31, fils de Nathan, fils de David. C'est la généalogie de Marie. Maintenant, écoutez bien. David avait plus d'un enfant. La lignée royale est descendue de Salomon. Le droit au trône aussi. Le sang royal est également passé par son autre fils, Nathan. Marie était une descendante de Nathan. Donc, elle était porteuse du sang royal, mais n'avait pas le droit au trône. Joseph avait le droit au trône, mais ne pouvait pas le prendre parce que sa semence était maudite. Comment allons-nous résoudre cela? Revenez à Matthieu, chapitre 1, et regardez ceci, verset 16. Jacob engendra Joseph. Écoutez bien. L'époux de Marie, pas le père de Jésus, n'est-ce pas? L'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. En fait, vous savez comment le mystère a été résolu? Si Jésus était né de la semence de Joseph, il n'aurait jamais pu prendre le trône. Parce que Joseph n'était pas son père physique, il n'était pas maudit, mais parce qu'il était son père légal, il hérita du droit au trône, sans la malédiction de Jéconie, et il reçut le sang royal de Marie. Personne n'aurait pu comprendre cela, à part Dieu. Les gens se disent, je ne sais pas si la naissance virginale est importante. Si c'est le cas, alors vous êtes un imbécile, parce que vous allez laisser la Bible avec des mystères irrésolus. Puis-je vous proposer un autre mystère? Daniel, chapitre 2, verset 34. Daniel a une vision de tous les empires du monde, et au milieu de cette vision, tout d'un coup, a lieu un grand événement, au verset 34. Une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ce que Daniel voit, c'est une grande image de tous les empires mondiaux, et alors qu'ils se tiennent là, dans toute leur gloire, vient cette pierre détachée, sans aucune main. Ce n'est pas un être humain. Cet événement n'est en rien le fait d'un humain. Il s'agit d'une pierre détachée, sans aucune main. Aucun homme n'a quelque chose à voir avec ça. C'est représentatif de Jésus-Christ. Il vient dans sa gloire, brise le schéma établi, c'est-à-dire qu'il détruit les royaumes des hommes. Sa personne remplit la terre et devient une montagne entière. Ceci est une image de la seconde venue de Jésus-Christ. Il viendra un glorieux conquérant de pierre, une pierre de triomphe, une pierre de victoire, une pierre qui frappe, une pierre qui concasse, une pierre dévastatrice, une pierre de jugement. Et ainsi, quand ils ont cherché un Messie, ils ont vu une pierre écrasante. Écoutez ce qu'Ésaïe dit au chapitre 8, verset 14. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Vous obtenez une autre image de cette pierre ici. C'est une pierre d'achoppement, c'est une pierre de scandale, une roche d'offense, une pierre d'achoppement, une pierre écrasante de jugement. Allons plus loin dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 28, verset 16. Écoutez ce qu'il dit. « Voici, j'ai mis pour fondement, en sillon, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Tout à coup, ce n'est plus une pierre d'achoppement et un rocher d'offense, ni une pierre écrasante de jugement. C'est une pierre précieuse, une pierre angulaire, une pierre stable, une base sûre. Mystère. » Dans le psaume 118-22, il est dit que c'est une pierre rejetée, une pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Ils ont dit, on n'intégrera pas ça dans notre immeuble, ce n'est pas la peine, et c'est devenu le fondement de tout. Et le mystère dans l'esprit du lecteur doit être comment une personne peut être toutes ces sortes de pierres. Une pierre précieuse, une pierre angulaire, une pierre chérie, une pierre stable, une fondation sûre et en même temps une pierre qui frappe, une pierre écrasante, une pierre qui concasse, un rocher d'offense et une pierre d'achoppement. Comment tout cela peut-il s'accorder? Encore une fois, vous êtes bénis car vous entendez et vos yeux voient. Pierre résout le mystère dans 1 Pierre au chapitre 2 et il ne peut être résolu qu'en Jésus-Christ. Il dit au verset 6 « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Et il cite le prophète d'autrefois. « L'honneur est donc pour vous, qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Et il rassemble simplement toutes ces prophéties, à l'exception de celle de Daniel. Et il dit que si vous croyez, il est une pierre angulaire précieuse, mais si vous le rejetez, il est une pierre écrasante, qui frappe, une pierre d'achoppement, et le mystère est résolu. Ce n'est pas facile de comprendre Jésus-Christ si vous le faites de vous-même. C'est pourquoi vous ne pouvez pas lire l'Ancien Testament sans le Nouveau, ou vous serez désarçonné. C'est pourquoi vous ne pouvez pas lire non plus sans l'esprit instructif de l'Esprit de Dieu, parce que l'esprit humain ne peut pas percevoir la réalité de Christ. Puis-je vous partager juste un dernier mystère? Et je vais juste y faire allusion. Genèse 49 dit que Judas était un lion, et que le Messie sortirait de Judas, et que le Messie serait un lion, féroce, puissant et mortel. Le dernier prophète de l'Ancien Testament était Jean-Baptiste, même s'il y a des écrits à son sujet dans le Nouveau Testament. Il est vraiment le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Quand il est venu, il n'a pas dit que le Messie serait un lion. Il a montré le Messie, et il a dit qu'il était quoi? Un agneau. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment peut-il être à la fois un lion et un agneau? Comment peut-il être un lion déchirant, farouche, féroce, mortel, et un agneau gentil et doux. Comment peut-il être d'une part un lion déchirant et dangereux, et d'autre part un agneau? Eh bien, il est les deux. L'Apocalypse le voit de cette façon au chapitre 5. Il dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Ils ont appelé un lion, ils ont reçu un agneau. Vous me direz, eh bien, comment cela se peut-il? C'est une question de perspective. Pour ceux qui rejettent Jésus-Christ, il est un lion. Pour ceux qui l'acceptent, il est un agneau. Noël n'a pas besoin d'être mystérieux. Nous n'avons pas à croire un canular inimaginable à propos de Jésus. Jésus le dit ainsi. Vous sondez les Écritures, pas vrai, dans Jean 5, 39, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tout mystère dans l'Ancien Testament est démêlé et révélé par le Seigneur vivant, Jésus-Christ. Et bien aimé, je crois vraiment que l'une des plus grandes preuves de validation du christianisme est l'harmonisation des prophéties contradictoires et paradoxales de l'Ancien Testament, qui trouve une résolution totale en Jésus-Christ. Elle ne pourrait jamais être contrefaite. Et il est celui qu'il dit être, le Christ envoyé par Dieu, le Sauveur du monde. Prions. Notre Père, nous reconnaissons que nos esprits sont incapables de résoudre eux-mêmes la vérité que tu nous as donnée, à moins que nous n'ouvrions les deux testaments et que nous soyons enseignés par l'Esprit de Dieu. Merci, Père, d'avoir établi de telles prophéties pour décontenancer même les saints, afin que même le bon sens ne puisse jamais les contrefaire, pas moins que les critiques ou les incroyants. Merci de ce que les lettres de créance du Messie soient si divines, si hors du monde, si surnaturelles, que chaque événement, circonstance et élément soit si totalement contrôlé par ta souveraineté, qu'il n'y ait pas d'autre explication que le fait que Jésus-Christ soit en tout point, comme tu l'as promis, un sauveur souffrant et un roi glorieux. Et quand nous comprenons comment tout s'harmonise en lui, sa naissance, sa vie sans péché, sa mort, sa résurrection, son ascension, son intercession et son retour prochain, nous savons que nous tenons entre nos mains la parole même de Dieu. Père, c'est notre prière que chacun de nous incline le genou devant Jésus-Christ, le Christ vivant, qui est né pour l'accomplissement de toutes les paroles, des prophéties, et qui, en son temps, mènera toutes choses à passer et accomplira chaque mot qui le concerne. Père, nous demandons que chaque cœur soit ouvert au Christ, d'abord pour le reconnaître comme Sauveur et Seigneur, et ensuite pour marcher dans l'obéissance, la soumission et l'amour pour sa parole. Tandis que nos têtes sont inclinées en cet instant, si vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ, vous défiez la vérité de Dieu. Vous agissez indépendamment de la plus grande réalité révélée dans l'histoire du monde. Il n'y a rien au monde pour lequel il existe des preuves comparables à la vérité que Jésus est Dieu fait chair, le Sauveur qui est venu mourir et ressusciter, pardonner notre péché et nous donner la vie éternelle. Croyez-le, seul un imbécile ne le ferait pas. Et si c'est vrai que vous lui avez donné votre vie et reçu son salut, marchez dans une obéissance et une soumission joyeuse pour l'accomplissement de son saint dessein.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.